Je suis très content d'être là, très reconnaissant. Ça tombe bien parce que le thème, c'est la reconnaissance. Du coup, j'aimerais remercier aussi Christian pour l'invitation. Un grand merci. Merci à Yann aussi pour ton accueil. Ça me touche beaucoup. Et ce matin, comme je viens de le dire, j'ai envie de vous parler de la reconnaissance. Parce que la reconnaissance, je trouve, c'est un sujet qui est central pour nous chrétiens. Et j'ai envie qu'on puisse aller un peu en profondeur dans ce sujet-là. J'ai juste envie de prier pour remettre ça à Dieu et puis on va se lancer. Voilà, voilà. Seigneur Jésus, on vient devant toi ce matin. Nos cœurs sont reconnaissants, nos cœurs ont soif de te rencontrer. Nos cœurs ont soif de ta présence. Saint-Esprit, je prie que tu révèles le Fils à travers ta parole. Je te prie, Seigneur, que tu fasses que nos cœurs soient tendres, que nos cœurs ne soient pas endurcis à ce que tu veux nous dire ce matin. On s'attend à toi, Jésus, on veut te vivre, on veut te voir à l'œuvre parmi nous. En ton nom, Jésus. Amen. La reconnaissance. Vous réalisez le nombre de fois dans une journée où on dit merci. On dit merci tout le temps. Enfin, j'espère. Si vous êtes bien élevé, j'espère que vous dites merci. Et c'est un peu le béaba de la politesse. C'est un peu le béaba de notre éducation. C'est simplement de dire merci. Mais je crois que la reconnaissance biblique, elle ne se résume pas du tout, ou pas simplement à la politesse. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et fort, la reconnaissance comme on l'entend dans la Bible, que simplement un merci de politesse. Et j'ai envie ce matin de me plonger dans un passage que j'affectionne beaucoup. C'est le passage de la guérison de 10 lépreux par Jésus, qui se trouve dans Luc 17. Et on va vraiment parcourir ce verset ensemble et on va s'arrêter et revenir et on va le digérer, quoi. Alors, Luc 17, 11. Au cours de son voyage vers Jérusalem, il, donc Jésus, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie compassion de nous !» Quand il les vit, il leur dit « Allez vous montrer au prêtre. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à pleine voix. Il tomba face contre terre, aux pieds de Jésus, et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus demanda « N'ont-ils pas été purifiés tous les 10 ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » On va juste remettre brièvement dans le contexte. Donc Jésus, il est en chemin pour Jérusalem. Et voilà qu'il rentre dans un petit village, on ne sait pas le nom du village, on sait juste que ça se situe quelque part entre la Samarie et la Galilée. Et là, voilà qu'il y a des lépreux qui se tiennent à distance et qui interpellent le maître en disant « Maître, aie compassion de nous !» Et la première question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce qu'ils se tiennent à distance? Et pour ça, il faut remettre un peu dans le contexte. Nous, ça nous paraît peut-être plus trop d'actualité, mais il faut bien comprendre le contexte dans lequel ce texte a été écrit. À l'époque, donc quand tu étais lépreux, tu étais impur. Et ça se trouve dans Lévitique 13, 45, on peut lire ça. « Aussi longtemps que le mal, donc la lèpre, sera sur le lépreux, il sera impur. Et étant impur, il habitera seul. Son seul lieu d'habitation sera hors du camp. » Et voilà la condition dans laquelle les lépreux se retrouvent. Ils sont impurs, ils sont mis en dehors de la société, ils ne peuvent pas entrer en contact avec les autres personnes dans le camp. Est-ce que Jésus ne s'approche pas des lépreux parce qu'il a peur de leur impureté? Je ne pense pas. Je sais que non, plutôt. On peut lire un autre verset dans la Bible, en Luc aussi, où Jésus va guérir un lépreux. Et la manière dont il va le guérir, c'est qu'il va le toucher. Il va lui dire « Je le veux, sois pur. » Et après, il va dire à ce lépreux d'aller se montrer au sacrificateur et d'offrir pour sa purification ce que Moïse avait prescrit. Je vais en parler un peu plus tard. Mais Jésus n'a aucune peur de toucher les gens impurs. Jésus n'a pas peur de l'impureté. Il ne craint pas que l'impureté le contamine. Bien au contraire, il est conscient que c'est sa propre pureté qui va purifier les impuretés, qui vient purifier nos impuretés. C'est souvent nous qui sommes souvent effrayés par les impuretés des autres. C'est nous qui sommes effrayés par les péchés des autres. On a toujours peur que les péchés nous souillent. Mais ça n'a jamais été le cas avec Jésus. Jésus était l'ami des pécheurs. Mais bon, ce n'est pas du tout le sujet du jour, mais je me devais de le dire. On va revenir au texte. Du coup, revenons au texte. Donc, Jésus se tient à distance des lépreux. Il va leur dire, la réponse est assez étonnante, il va leur dire, allez vous montrer au prêtre. Ça, c'est une réaction étonnante de la part de Jésus. Parce que c'est un peu genre, je renvoie la patate chaude, non? Je viens vers toi, les lépreux viennent pour Jésus pour être guéris, et il va dire, allez vous montrer vers le prêtre. Et on peut le comprendre comme ça, et je trouve que c'est un petit peu comique comme situation. Mais je rigole, mais c'est pas du tout ça. Je pense que par là, Jésus va les renvoyer aux prescriptions de la loi. Et je vais vous expliquer ça. Il faut revenir à Lévitique 14. Alors, pour les plus courageux, vous pourrez étudier Lévitique 14. C'est compliqué, donc je vais pas m'y atteler ce matin. Mais en fait, quand un lépreux tombait malade, il devait aller se présenter vers le prêtre, et le prêtre constatait son impureté. Et puis, de la même manière, quand un lépreux était guéri, il devait retourner auprès du grand prêtre, du sacrificateur, et le prêtre devait constater qu'il avait été bien guéri. Et après, il devait y avoir tout un processus de purification qui était mis en place, avec l'aspersion du sang sur l'oreille, sur machin, enfin, c'était assez complexe, pour que le lépreux soit restauré dans son identité, et restauré et puisse retourner dans le camp. Et donc, le rôle du prêtre, ce n'était pas de guérir le lépreux, c'était de constater la guérison et de faire justement ce processus de purification. Et moi, comment je comprends le texte, c'est que quand les 10 lépreux se mettent en marche, je pense qu'ils sont tout à fait conscients de Lévitique. Ils connaissent la loi de Moïse. Et je crois que par sa parole, Jésus va donner la promesse de purification des lépreux, dans le sens où il va leur donner l'espoir en disant « Allez vers le prêtre pour qu'il constate votre guérison. » Et donc, quand Jésus donne une promesse, il libère l'espérance. Quand Jésus donne une promesse, il libère l'espérance. Je trouve ça beau. Jésus va leur dire « Allez voir les prêtres. » Et là, il y a quelque chose qui se met en marche dans le cœur des lépreux. Il y a l'espérance. L'espérance. Et qu'est-ce que fait cette espérance? Elle va se manifester par l'obéissance, par la foi. Et j'aime le fait que les lépreux, ils soient guéris en chemin. Je vais juste relire ça. Pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. Souvent, entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, il y a un chemin. Et ce chemin, c'est le chemin de l'obéissance par la foi. Et le fait que les lépreux soient guéris en chemin, je trouve que ça parle beaucoup aussi du cœur de Dieu. J'aimerais juste qu'on se penche un peu, qu'on imagine un peu la scène. Ils sont en chemin. Tout d'un coup se manifeste la présence de Dieu. Tout d'un coup se manifeste la gloire de Dieu. Ils sont restaurés, ils sont guéris. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des images de la lèpre, mais c'est une maladie invalidante et horrible. Ça ronge. Et je pense que le miracle de guérison de la lèpre, c'est un miracle recréateur. La peau commence à repousser, les tissus commencent à reprendre vie là où le mal de la lèpre avait rongé. Et ils sont là, les 10, ils se regardent et ils voient que leurs compagnons d'infortune, ils commencent à être restaurés dans leur identité physique. La peau repousse. C'est pas un miracle de guérison d'un rhume, c'est vraiment quelque chose. C'est assez impressionnant. La gloire, le miracle est manifeste. Et là, ce qui m'intéresse, et c'est le cœur du message, c'est comment est-ce que ces 10 réagissent. Il y en a un qui se démarque des autres. C'est un Samaritain. Donc, le Samaritain, c'était pas très bien vu d'être samaritain pour les juifs à l'époque. C'était un mélange. C'était un peu, il y avait les Juifs et il y avait les Samaritains qui étaient un peu, comment j'avais dit ça? Un métissage entre les Israélites et les peuples qui pratiquaient encore l'idolâtrie, donc ils étaient mal vus, et puis ils étaient vraiment considérés comme des étrangers pour les Juifs et comme des gens impurs. Et voilà que le texte nous dit que c'est un Samaritain qui s'arrête. On ne sait pas la nationalité des neuf autres, on peut déduire que ce sont des Juifs, mais le texte ne nous le dit pas. Et voilà, qu'est-ce que font les neuf autres ? Il y en a un qui s'arrête et les neuf autres, ils continuent leur route. On n'entend plus parler d'eux. Le texte n'en dit plus rien. Probablement qu'ils ont continué leur route. Ils sont allés voir le grand prêtre qui a constaté leur purification, leur guérison. Ils ont été purifiés et puis ils se sont empressés de revenir, d'être réintégrés dans leur vie tous les jours. J'en déduis ça. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Le texte ne nous le dit pas. Mais il y en a un qui fait quelque chose différemment. C'est ce Samaritain. Et en relisant le texte plusieurs fois, il y a quelque chose qui m'a interpellé. En fait, ce Samaritain, il désobéit à ce que Jésus lui a demandé de faire. Je ne l'ai pas vu au premier abord, mais c'est en relisant le texte que Jésus lui dit « Allez voir le grand prêtre ». Et en fait, le Samaritain, dès qu'il réalise qu'il est guéri, il s'empresse de recourir vers Jésus. Il switch la case grand prêtre, le prêtre. Il va directement vers Jésus. Et par là aussi, il switch les ordonnances de la loi qui nécessitaient que pour qu'un lépreux soit réintégré dans la société, il devait être purifié par le prêtre. Ça, c'est fou. Il y a une sorte de spontanéité qui se déclare chez cet homme. Il va épancher son cœur. Les prescriptions de la loi, les règles n'ont plus d'importance pour lui. Et par ce faire, il va se retrouver au pied de Jésus. Lui qui est impur, qui en plus est samaritain, il va se retrouver au pied de Jésus. Et en fait, c'est véritablement une profession de foi. Quand cet homme se retrouve au pied de Jésus, il reconnaît que Jésus est Dieu. Il reconnaît que son salut vient de Dieu. Et il reconnaît que seul Jésus peut le purifier. Qu'il n'a plus besoin de retourner auprès du prêtre. Jésus l'a guéri, Jésus peut le purifier. Intéressant, non ? 10 personnes sont venues et sont restées à distance de Jésus. Une seule a rencontré Jésus intimement. 10 personnes se sont tenues à distance de Jésus, l'ont appelé maître. Une seule s'est retrouvée au pied du maître. 10 personnes ont eu la foi de se mettre en mouvement quand le maître leur a parlé. Une seule s'est retrouvée au pied du maître. Ça me laisse songeur, ça, parce que j'ai l'impression que souvent on recherche les mains de Dieu plutôt que de rechercher son cœur. Beaucoup de gens, on attend tous des miracles, et moi le premier, je veux vivre des miracles, je veux vivre des guérisons. Mais c'est pas tout. Et même à l'époque de Jésus, on voit que la puissance miraculeuse de Dieu était manifeste. Et Dieu manifestait sa puissance. Et il y a un épisode que je trouve qui m'a frappé, c'est dans Matthieu 11:20. Jésus va faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles. C'est Matthieu 11:20. Parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Il va dire « Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. » Et il va continuer avec Capernaum, etc. En fait, Bethsaïda, c'était proche de la ville de Bethsaïda que la foule avait suivi Jésus. Et là, Jésus avait guéri des malades. Et là, Jésus avait fait le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Et là, Jésus va dire, mais malheur à vous, parce que vous avez vécu, vous avez vu les miracles, mais vous ne vous êtes pas repentis. une chose intéressante avec le mot, avec le fait de se repentir, c'est une des définitions, ça pourrait être faire demi-tour ou le retour à Dieu. Changer de direction, faire demi-tour et revenir à Dieu. Et dans le texte, il n'y en a qu'un seul qui fait demi-tour. Alors le texte, j'extrapole un peu le texte parce que dans le mot grec pour le lépreux qui retourne, qui fait demi-tour, c'est pas le même grec, le mot grec qui veut dire se repentir, mais je trouve que l'image est là. Il n'y a qu'un seul sur les 10 qui s'arrête, qui fait demi-tour et qui revient vers celui qui lui a tout donné. C'est le principe de la repentance. Tu es dans une direction, tu rencontres Dieu et tu ne peux pas continuer à aller dans cette direction, tu dois revenir à lui. C'est le retour à Dieu. Et je pense que souvent, on cherche ses mains, mais on oublie où est son cœur. Et on voit dans la réponse de Jésus, où sont les 9 autres? Tous les 10 n'ont-ils pas été guéris? J'aime combien Jésus cherche le cœur de son peuple. Il y en a un qui revient, mais Jésus s'intéresse aux 9 autres. Ça montre grand de la compassion du cœur de Père. Les 10 ont demandé à Jésus d'avoir compassion d'eux. Et Jésus a compassion d'eux. Mais où sont les 9 autres? Ce que je voulais leur offrir, ce n'était pas simplement une guérison physique. Ce que je voulais leur offrir, c'était une rencontre. Et la dernière phrase du verset, elle m'interpelle. Il va dire, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Le mot sauvé ici, c'est le mot grec sozo. Ce n'est pas dire simplement guéri, sauvé, ça veut dire aussi restauré, délivré. Il y a une transformation qui s'opère chez ce lépreux qui a été guéri physiquement. Il y a une transformation qui s'opère dans tout son être, dans son corps, dans son âme et dans son esprit. La guérison que cet homme a reçu sur le chemin l'a mené à une rencontre personnelle avec celui qui l'a guéri. Et je crois que une des clés, c'est la reconnaissance. La reconnaissance. Ce qui me frappe, c'est de voir que cet homme, il est prêt à déroger un petit peu aux règles. Parce que c'est pas ça qui compte, c'est plus ça qui compte. C'est la spontanéité du cœur qui dit merci. C'est quelque chose de, ça se donne. C'est pas quelque chose qui se contrôle, c'est pas quelque chose pas quelque chose d'intellectuel. Le lépreux dans cette histoire, il a pas, je pense pas qu'il ait médité, réfléchi à la question. Non, il a été guéri, il est retourné vers celui qui l'a guéri, dans un acte de reconnaissance, et son cœur a été complètement transformé. Et j'ai une question à nous poser ce matin. Quelle place a la reconnaissance dans nos vies? Cette histoire, elle est dure. Parce qu'on s'identifie aux 9. Enfin, moi, personnellement, je m'identifie aux 9. Parce que je demande à Dieu. Je suis stressé, je demande à Dieu des petites choses. Et quand je reçois ce que Dieu m'a donné, c'est comment dû? Du moins, je lui dis un petit merci de politesse parce que j'ai appris ça. Mais c'est pas un dû. Il n'était pas obligé de le faire, mais il l'a fait. Et avec quel cœur est-ce que je reviens à lui en lui disant merci? Est-ce que j'ai la même attitude de reconnaissance quand Dieu exauce mes prières que quand Dieu ne les exauce pas? Est-ce que j'ai la même attitude de reconnaissance quand tout va bien ou quand tout va mal? Je pense que la reconnaissance, elle nous invite à couronner Dieu comme roi dans nos vies. Parce que la reconnaissance, dire merci, c'est en fait dire que c'est plus nous au centre. C'est pas à propos de nous. La reconnaissance, elle a cette puissance pour détourner notre regard de nous-mêmes. Merci Seigneur, c'est pas à propos de moi. Tu étais juste bon, et c'est ta grâce. Et quand on est reconnaissant, en fait, parce que souvent, souvent on se dit, quand Dieu nous exauce, on se dit, ah ouais, ben, je le méritais quand même un peu. Hein. Enfin, j'ai lu ma Bible ce matin, j'ai prié, je suis quand même un bon gars, du coup, merci Jésus, mais je suis quand même. Je le méritais quand même un petit peu, tu vois. Et en fait, c'est pas du tout une attitude de reconnaissance, ça. C'est simplement de l'orgueil. Et ce fait de se dire, mais Seigneur, je sais que je ne le méritais pas, et je te dis merci pour ça, ça couronne Dieu à nouveau roi dans ma vie. Vous suivez? Il y a ce verset dans Thessaloniciens 5, 16 qui dit « Réjouissez-vous toujours, priez continuellement, rendez grâce en toutes circonstances, telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » C'est Thessaloniciens 5, 16, 18. Tout le passage est incroyable, mais je vais m'arrêter là-dessus. Rendez grâce en toutes circonstances, autrement dit, remerciez continuellement, en tout temps. Qu'est-ce que ça veut dire rendre grâce en toutes circonstances? Ça veut dire en toutes circonstances. La reconnaissance biblique, ce n'est pas juste un code appris au catéchisme. Elle grandit, je pense, dans l'intimité d'une vie qui cherche son Dieu. Et une petite chose dans le verset que je viens de vous lire, « Telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Si vous ne savez pas comment faire la volonté de Dieu, ben c'est facile, hein. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes circonstances. Réjouissez-vous. Vous ne pourrez jamais faire faux. Vous ne pouvez jamais trop remercier, trop prier, être trop reconnaissant. C'est la volonté de Dieu pour vous, à votre égard. Comment est-ce qu'on peut cultiver cette reconnaissance? Je pense que le meilleur moyen, c'est de revenir à la croix. Le meilleur remède à l'ingratitude, c'est la croix. Parce que quand on réalise ce que Jésus a fait à la croix, c'est plus à propos de nous. Et je trouve ça puissant. Je médite beaucoup sur la croix. Ça fait des années que je suis chrétien, je suis né dans une famille chrétienne. J'ai appris la théologie de la croix en même temps que je buvais le biberon. Et la croix, ça, c'est un peu, ça devient un peu une histoire. Mais je continue, année après année, à méditer sur la croix. À passer des heures à méditer sur cette croix. Et je ne comprends pas la croix, je suis honnête avec vous, mais je ne comprends pas la croix. Chaque fois que je crois avoir compris quelque chose, je suis face à mes questions, face à mes... C'est trop scandaleux pour moi. J'arrive pas à comprendre l'immensité de cet amour qui s'est donné pour moi. J'arrive pas à comprendre la profondeur que ça implique dans ma vie. Alors je continue à méditer et je demande, Seigneur, révèle-moi ce que tu as fait à la croix. Et quand je suis dans cette attitude, il n'y a qu'un seul mot qui me vient aux lèvres, c'est merci. Je ne le méritais pas, c'est par la grâce, tu m'as sauvé. Non seulement tu m'as guéri, mais tu m'as restauré dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Et ma vie, je peux la vivre pour toi. C'est plus à propos de moi. Je n'ai plus rien à me prouver à moi-même. Je n'ai plus rien à prouver aux autres. Je n'ai plus rien à prouver à Dieu. Je suis libre d'être simplement là, devant la croix, et de lui dire merci. Je pense que être reconnaissant pour ce que Dieu fait nous invite toujours, en finalité, à être reconnaissant pour qui Dieu est. Et c'est pour ça qu'il faut cultiver la reconnaissance pour ce que Dieu fait. Se rappeler de ce que Dieu fait dans nos vies, ça nous permet de nous rappeler son cœur. Nous rappeler ses bénédictions, ça nous rappelle combien est-ce qu'il est bon. Et je ne vais pas faire beaucoup plus long ce matin. J'ai envie qu'on prenne la Sainte Cène et je vais vous lire ce passage qui se trouve dans Luc 22, 14. Et je pense que la Cène, c'est le moyen pour se rappeler de ce que Jésus a fait à la croix. C'est le moyen qui nous permet de réaliser son œuvre pour nous, son scandale, le scandale de la croix, le scandale de la grâce. Et je vais vous lire ce texte. Leur venu, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Il prit une coupe, rendit grâce et dit, prenez ceci et partagez-le entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du produit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. Puis il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, c'est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il fit de même avec la coupe, après le dîner, en disant, cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang, qui est répandue pour vous. Seigneur Jésus, je te remercie pour la croix. Je te remercie pour ce scandale, le scandale de la grâce qui s'est manifesté à la croix. Et Seigneur, ce matin, je prie que tu scelles dans nos cœurs une attitude de reconnaissance. Que nos vies soient mues par ta reconnaissance. Seigneur, on veut vraiment te dire merci, non seulement pour tout ce que tu fais, mais surtout pour qui tu es. On ne veut pas simplement rechercher tes mains, on veut rechercher ton cœur, Seigneur. Manifeste-toi parmi nous ce matin. Révèle-nous les profondeurs de ton amour. Alors qu'on prend cette scène, Seigneur, permets-nous de réaliser que la croix, ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de toi. C'est toi qui es mort sur cette croix. Seigneur, que nos cœurs soient admiratifs, que nos cœurs soient plongés dans les tiens, Seigneur. Comme le lépreux qui a été guéri, Seigneur, qu'on puisse être transformé par une rencontre ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen.